France Bleu Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef! Oui, Youssef! L'ouverture du score! Crochet le but!
2-0 pour Brest!
Ici, c'est Brest.
Ici, c'est Brest, en direct de l'Arena Café. On retrouve Benjamin Bourgine. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous, bienvenue à l'Arena Café. Effectivement, ici c'est Brest en compagnie ce soir de Gaëtan Bello, défenseur latéral du Stade Brestois. On va parler bien sûr du dernier match de Brest, la défaite contre le Red Star vendredi dernier, du prochain match, ça c'est vendredi face à Metz, à Saint-Symphorien. Les Brestois ont encore là aussi une belle adversité. Et ce soir on va gagner des places également, soyez attentifs pour le prochain match à domicile, ce sera contre Créteil le 4 mars et je vous fais gagner deux places ce soir pour ce match-là, Créteil à Le Blé. Également au programme de ce Ici c'est Brest, le derby de Ligue 1 samedi soir, une pluie de buts et victoire 4-3 des Lorientais face au Guingampais. On en reparle avec notre consultant qui était au micro samedi soir, ce sera Loïc Druon dans quelques minutes. En fin d'émission, on focus sur la voile et Franck Camas, le skipper français, annonçait aujourd'hui une bonne nouvelle dans son programme pour l'America's Cup, en fait un nouveau sponsor, et je peux vous dire que ça compte dans ses projets de voile qui coûtent très très cher. Si vous aimez le hand, ce week-end les joueuses du Brest-Bretagne Handball affrontent Mérignac et là aussi nous avons deux places à vous faire gagner pour cette rencontre de D2 féminine. Ce sera donc samedi à 20h30. Et puis toujours en féminine et en salle, on parlera du Landerneau Bretagne à basket avec David Le Goff, son responsable technique, qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Vos coups de cœur ou vos coups de gueule sur l'actu sportive, c'est au 02 98 53 65 deux fois. On vous attend au standard de France Bleu Brésil pour commenter avec nous les résultats du Stade Brestois ou de nos autres sujets du jour. Ici c'est Brest, on est ensemble jusqu'à 19h.
Ici, c'est Brest. Benjamin Bourgine.
Bonsoir Gaëtan Bello.
Bonsoir.
Voilà, on va commencer cette émission, comme de traditionnel, par le résumé du match de Brest vendredi soir. C'était à Le Blé face au Red Star, une défaite 1-0. Le Red Star, une équipe réputée redoutable en déplacement, et ça n'a pas loupé. Au micro pour France Bleu Brésil, Charles Guyard, avec les réactions également de Bruno Grougy et Alex Dupont.
Ça vient de commencer avec un premier débordement brestois sur le côté droit, un centre avec Alphonse à la réception dans la surface de réparation. Il était un petit peu dos au but, aux prises avec la défense francilienne. Cela n'a rien donné, pas mal devant là dans ce stade. Francis Leblé qui a été bien arrosé également durant toute la journée. Attention avec une première accélération, toujours Joseph Monroe sur le côté, le centre derrière et le bon retour défensif là de Rémi Amieux derrière Alphonse dans la surface de réparation. La première frappe elle est complètement dévissée sur son pied gauche, pressing payant puisque ça peine dans la surface de réparation. La première frappe, oh, elle est signée, c'était superbe de Xavier Chavalorin, complètement seul dans la surface de réparation, une défense aux abois là. Et puis le reste, ça on le sait, il n'en faut pas 36 des occasions pour les mettre au fond, surtout à l'extérieur. Donc attention à cette équipe du Red Star qui est venue avec des intentions très offensives, on l'a vu. Corner, le premier de cette seconde période qui va être frappé par Amer Boisa de la gauche vers la droite. On va la jouer à la Rémoise avec Rémi Amieux pour la tête des croisés, le but. Voilà l'ouverture du score, elle est belle quand même cette tête. Pierrick Cross, c'est vrai, sur une action litigieuse parce que a priori il n'y avait pas corner, mais derrière Brest a mis un petit peu trop de temps à revenir dans la partie parce que une fois que la décision est prise, bah tant pis, faut faire avec, faut jouer, ce que Brest n'a pas fait. Et Grougy derrière qui continue de manifester son irritation et qui écope d'un carton jaune.
Il y a à mes yeux une grosse faute sur Manu, il la siffle pas, derrière ça continue et ça part en corner, il aurait jamais dû avoir corner. Peut-être c'est un peu moi qui ai déconcentré tout le monde sur le corner et du coup c'est dommage que ça bascule là-dessus.
Mais en tout cas voilà, le Red Star qui ouvre le score sur une action rondement menée.
C'est de la concentration, c'est de l'engagement, on en a manqué sur ce coup-là. On était encore en train de discuter de cette décision incohérente.
Voisin la surface de réparation, la frappe pour juste à côté des cages de Johan Hartog à nouveau. Frappe du gauche là, il aurait peut-être pu avancer un petit peu encore l'attaquant du Red Star. Il a préféré frapper à l'entrée des 18 mètres, cela dit c'était pas mal. Si ça avait été cadré, j'ai peur qu'Hartog aurait été peut-être un petit peu court. Trois coups de sifflet final de Florent Bata. Voilà la rencontre qui se termine sur la défaite du Stade Brestois, mais défaite assez logique compte tenu du scénario.
Maintenant, je peux rien reprocher non plus à mes joueurs parce que c'était un match d'un bon niveau. C'est certainement la meilleure équipe qui l'a emporté. Mais bon, on l'a contesté, mes joueurs l'ont contesté en tous les cas jusqu'au bout.
Ici, c'est Brest, la Ligue 2.
Voilà pour les impressions et le direct. C'était vendredi soir sur France Bleu Brésil avec les réactions donc de Bruno Grougy et de Alex Dupont. Gaëtan Bello, qu'est-ce qu'il vous laisse ce match comme souvenir là, ce lundi soir, maintenant que c'est un peu plus à froid et qu'on peut se replonger dans cette défaite de manière un peu plus clinique peut-être?
Oui, que le Restart a vraiment fait le match qu'il fallait pour nous contrecarrer. On sait qu'ils nous ont vraiment bien étudié à la vidéo et voilà, ça a marché sur ce match-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'on regrette un petit peu au classement de ne pas avoir gagné ce match-là, parce qu'on pouvait se replacer pour la montée vraiment.
Parce qu'en même temps, les commentaires, c'était aussi de dire on a fait un bon match finalement. Alex Dupont le dit, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Finalement, c'est quoi? C'est le Red Star qui a de super stats aussi en déplacement, qui sait toujours bien s'adapter aux équipes qu'il rencontre chez elles.
Oui, à l'extérieur, je crois qu'ils ont qu'une défaite sur 15 matchs. Donc, on savait avant le match que ça allait être un match compliqué et ça l'a été. Donc, il y a pas de surprise, mais voilà, pour jouer le haut tableau, il faut certainement en faire beaucoup plus.
Sur le but du Red Star, donc on rappelle, il y a ce contexte d'abord, et Bruno Grougy l'expliquait bien, une faute qui, selon lui, n'est pas sifflée, ensuite un corner qui n'en est pas un mais qui le devient, et puis l'équipe du Red Star, on le voit, joue un corner à la rémoise, donc petite passe en retrait et ensuite un angle beaucoup plus ouvert pour frapper, et la tête qui passe in extremis mais qui rebondit sur le poteau. Il y a tous les ingrédients là pour être un petit peu frustré quand on est en défense, et pourtant on se demande si ils n'ont pas aussi joué à la rémoise parce qu'ils ont vu que vous étiez un peu déconcentré. Comment vous avez vécu ça, vous, à ce moment-là?
À ce moment-là, c'est vrai qu'on regardait pas mal l'arbitre. Il y avait pas mal de joueurs de Brest qui étaient en train de parler à l'arbitre. Ils l'ont joué assez rapidement dès que l'arbitre a donné son accord. Et voilà, on manquait certainement de concentration. Et quand on prend le but, on se dit que c'est un peu de notre faute quand même. Donc voilà, dans ces moments-là, il faut savoir garder son sang-froid. Et malheureusement, on l'a payé tout de suite.
Mais il y a un petit côté opportuniste ou pas chez eux de se dire tiens, on va jouer clair. Un petit coup filou là, c'était pas forcément prévu mais on le fait, tac.
Oui, bah ils ont profité vraiment de notre déconcentration pour marquer ce but là et c'est vrai que ils ont joué rapidement le corner à deux et nous on n'était pas forcément trop en place, donc ça a marché.
Bon, pas de points, ni celui du match nul, ni les 3 points de la victoire à domicile. Ça vous oblige évidemment à vous racheter en quelque sorte. Et vendredi prochain, ce sera Metz. Metz qui joue aussi ce soir. Une équipe qui joue, elle, clairement la montée. Elle est pas loin de ces 3 premières places que tout le monde ambitionne. Comment vous voyez peut-être la différence qu'il y a entre ces deux matchs? Comment on les prépare? Entre une réception, un déplacement à Metz où il fera très froid, une équipe solide chez elle aussi?
Oui, c'est vrai que ils vont jouer la montée encore jusqu'au bout. Ils vont certainement pousser très fort chez eux, donc ça sera pas du tout le même match que contre le Red Star. Va falloir être très costaud et je sais pas du tout si on va changer de système tactique ou pas, mais bon, dans tous les cas, ça jouera plus, on va dire, dans la tête ce match-là plutôt que tactiquement, où le match du Red Star c'était plutôt un match tactique.
Quand c'est tactique, justement, c'est aussi parce que le Red Star sait bien gérer ses déplacements. Il n'y a pas peut-être une leçon à tirer là de leur excellence, entre guillemets, lors des déplacements?
Oui, forcément. C'est vrai que...
C'est impressionnant. Quand, hein, c'est une seule défaite, ouais. Effectivement.
Quand on voit le début de match qu'on fait, on se dit qu'on peut avoir quelques regrets. Et au final, sur l'ensemble du match, on a l'impression qu'on s'est fait dominer. Donc... on se dit qu'il faut certainement regarder ce qu'ils ont fait pour apprendre aussi et essayer de faire pareil à l'extérieur.
Parce que la frustration, elle est aussi sur le fait de... Avant le Red Star, vous étiez sur 2 matchs victorieux, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, en tout cas pas du tout cette saison, ouais. D'enchaîner 2 victoires. Là, ça vous a coupé un petit peu? Vous êtes senti, tiens, on avait peut-être une série là, qu'on tenait du bout du bras?
Oui, c'est clair, c'était un tournant. On était ambitieux, on se dit que si, en gagnant le Red Star, on revient à 4 points du podium et là on se retrouve à 10, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, contre Metz, ça sera un peu le même genre de match où si on perd, on se retrouve encore à 13 points du podium. Donc voilà, si on arrive à accrocher Metz ou à aller faire un résultat là-bas, on pourra encore jouer quelque chose en cette fin de saison.
Si vous souhaitez poser vos questions à Gaëtan Bello ou à nos invités ce soir sur France Bleu, dans Ici c'est Brest jusqu'à 19h, un numéro à composer, le 02 98 53 65. Deux fois dans quelques instants, on va jouer justement pour deux places pour le prochain match à la maison. Ce sera Brest contre Créteil. Un mot, Gaëtan, encore sur l'équipe de Metz qui joue justement, elle, ce soir à Nîmes. C'est le dernier match de cette 27e journée de Ligue 2. C'est important, ça compte dans la préparation de savoir qu'ils ont eu un long déplacement parce que ouais, Metz, Nîmes, ça fait comme une belle transversale aussi dans l'Hexagone. Savoir qu'ils auront peut-être ça et moins de récupération que vous dans les pattes.
Là, je pense que le délai est trop long pour qu'il y ait une différence. C'est vrai qu'ils ont 4 jours de repos entre les deux matchs, donc honnêtement, je pense que ça change pas vraiment grand-chose.
C'est une équipe dont vous vous souvenez quoi de Metz à l'aller, le match aller
À l'aller, c'était, je trouvais, la meilleure équipe contre qui on avait joué. Ils nous avaient posé beaucoup de problèmes et j'ai trouvé une équipe très physique. Et c'est vrai que là, ils ont changé pas mal de joueurs, un nouveau coach aussi, donc à mon avis, ça sera pas du tout le même type de jeu. Je connais bien en plus Hinsberger que j'ai eu à Laval.
À Laval, ben oui.
Voilà, donc je sais que c'est un coach qui aime beaucoup le jeu, qui aime le pressing. Voilà, faut attendre un gros début de match de leur part, à mon avis.
Si on regarde le classement un peu froidement, ils sont pour l'instant 5e avec un match en moins, évidemment celui qu'ils disputent ce soir. En cas de victoire, justement, ils reviennent à la hauteur du Red Star. Une victoire à Nîmes, c'est pas non plus complètement impossible. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut faire la différence sur la fin de saison pour la montée? Parce que Brest, on aime bien penser à la montée, mais on va dire qu'à chaque fois qu'il y a une victoire, on se rêve, on se projette là-dedans encore de nouveau. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement encore y croire, Gaëtan?
Moi j'y croirais jusqu'au bout, je l'ai déjà dit, je me suis fait un peu chambrer d'ailleurs la semaine dernière. quand je dis que je crois à la montée, c'est vrai, c'est juste que mathématiquement c'est possible, donc pourquoi jouer le milieu de tableau, ça sert à rien, la quatrième place ça sert à rien aussi. Donc oui, on va jouer la montée.
De la quatrième à la seizième, on sait que ça sert à pas grand chose. Voilà. Et la montée, c'est quelque chose qui devient un carburant au fur et à mesure où on se rapproche de ses places, ou pour certains joueurs, peut-être comme toi d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a tout le temps en soi?
Je pense que, bon, évidemment, certains y pensent plus quand on s'y rapproche. C'est vrai que là, avec les 2 victoires d'affilée, forcément, on y pensait un petit peu plus. Et là, dès qu'on perd, on va dire que c'est fini. Mais voilà, faut se dire qu'à chaque match, on peut revenir dans la course. Donc je pense que pour jouer la montée, il faut faire une série de 3-4 victoires d'affilée. Et on a failli le faire là, on a commencé. Donc pourquoi pas recommencer à Metz par une première victoire.
Ça et tient
on
à pas grand-chose.
Ce qui se passe après.
Ça tient à quoi?
Ça tient à une faute d'arbitrage contre le Red Star.
Celle de ce vendredi soir, effectivement, qui vous laisse un petit goût encore amer. Allez, pour éviter de garder ce goût amer en bouche, on va jouer justement avec vous sur France Bleu Brésil. Et le prochain match à domicile du Stade Brestois, ce sera contre Créteil, une équipe qui vient vous rendre visite, Gaëtan, et vous et vos coéquipiers, tout début mars. La date exacte, je l'ai sous les yeux, c'est le vendredi 4 mars. On a pour ça 2 places à vous faire gagner, à vous, auditeurs de France Bleu Brésil, avec une question justement un petit peu perso sur Gaëtan Bello. On va parler de vous un petit peu plus juste après, Gaëtan. Et si vous savez dans quel département est né Gaëtan Bello, est-ce que c'est plutôt au bord de la mer ou plutôt ailleurs, en plaine ou à la montagne? Dites-nous si Gaëtan Bello est né en Finistère, en Loire-Atlantique ou bien dans les Pyrénées-Atlantiques, un petit peu plus au sud.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille.
Ah oui!
Et je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Oh. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre.
Mon Dieu,
je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau.
Ah bon, mais bah, pardon, moi, tu vas. Je t'ai reçu bras ouverts, vieille canaille.
Tu sais, je sais.
Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille.
Ouais.
T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit, t'as cité tout mon whisky,
et puis mon lit. Puis je t'ai présenté ma femme, vieille canaille.
Un canon.
Ouais, t'ai présenté ma femme, vieille canaille.
C'est vrai.
Fumier, tu as fait du baratin.
Mm-hmm.
Tu l'as embrassé dans les coins.
Et ailleurs.
Dès que j'avais tourné le dos. Et le chameau.
Je suis parti avec elle, vieux canard.
Ouais, je sais.
Oui, je suis parti avec elle, vieux canard. Oh. En emportant la vaisselle, le cilien dans terre, tes cassettes au magnéto, vieux chameau.
Fumier, fumier, ordure, etc. Sorti mon fusil, vieille canaille.
Ah
ah. Ouais, j'ai sorti mon fusil, vieille canaille.
Aïe, aïe, aïe.
Et quand je te tiendrai au bout,
je
rigolerai. Bon coup,
pas moi.
Et que je t'aurai vite refroidi, vieux bandit.
Mais on te mettra dans une tombe,
ah bon,
vieille canaille, vieille, ah bon, vieille, vieille canaille.
Et moi, je vais faire la bombe, vieille canaille.
Ça m'étonne pas. Un coup de petite paire de filles,
la plus belle queue de ma vie,
sera pour tes funérailles, vieille canaille.
Vieille canaille. France Bleu Brésil.
C'est Brest.
Retour au direct, ici c'est Brest, depuis l'Arena Café sur le port de Plaisance de Brest, le port du Château. Et désolé pour l'interruption de ligne, on reprend donc là où on a laissé l'interview tout à l'heure de Gaëtan Bello. On a un petit peu causé dans le vide, Gaëtan a peut-être répété deux, trois choses, mais on était parti sur des questions un peu plus personnelles et notamment sur la manière dont on vit cette saison avec toutes ces controverses et ces atermoiements, par exemple, tactiques. Donc on disait, ça vous touche un petit peu quand même quand... quand il y a beaucoup d'interrogations autour du club sur à la fois les plans tactiques, l'organisation de l'équipe, mais aussi l'actionnariat qui a peut-être changé, le club qui est en train de se transformer. Tout ça, c'est des choses qui finissent par interférer un petit peu avec le sportif.
Quand ça nous touche personnellement, oui, forcément. C'est vrai que les gens oublient qu'on a une famille qui nous suit et que ça les touche plus que nous, forcément, puisqu'on commence à être habitués à ces choses-là.
Et eux, pas forcément.
C'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui sort dans la presse ou que les gens disent sur Internet, sur les forums, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, forcément, nos proches réagissent beaucoup plus que nous qui sommes, entre guillemets, habitués. Donc forcément, ça rejaillit sur le sportif après.
Et est-ce que ça peut rejaillir aussi sur la dynamique d'une équipe, d'un 11 de départ par exemple?
Moi, je pense pas. Après, il faut vraiment que ce soit des choses assez graves. Mais non, honnêtement, je pense pas. Après, chacun sait faire la part des choses aussi. Et on sait faire l'autocritique de nos matchs. Chaque joueur sait ce qu'il a fait de bien ou pas. Et on arrive à faire la part des choses quand même.
C'est ta deuxième saison, Gaëtan, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Deuxième saison avec Brest, et on a l'impression que celle-là, elle peut-être ouvrir des portes. Est-ce que tu sais déjà, toi, si tu as envie de poursuivre l'aventure? On l'a dit, hein, tu es en fin de contrat avec Brest. Est-ce que tu aurais envie, par exemple, de rester ou vers d'autres clubs, si déjà tu as des idées pour l'an prochain?
Des idées, j'en ai plein, mais après, bon, ça se contredit.
Barça, concrétise
pas forcément, voilà. Liverpool. Non, mais oui, forcément, moi, je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé ici, et même avant, mon objectif, c'est de jouer en Ligue 1, mais après, ça se fait pas forcément, et ici, je suis très heureux, honnêtement, et ça se passe très bien au club, je m'entends très bien avec tout le monde. Donc, si je poursuis l'aventure ici, je serai très heureux aussi.
J'ai l'impression que ton profil, c'est plutôt de... Bon, ancien attaquant, hein, formé comme tel, et puis replacé latéral, donc forcément il y a cette envie de vouloir déborder, de centrer, d'apporter un plus offensif. C'est peut-être justement cette petite, ce petit grain de folie qui a peut-être manqué à Brest parfois que tu es susceptible d'amener, non?
Oui, j'essaye d'apporter le plus possible offensivement et voilà, de faire des passes décisives quand je peux. C'est dans mon jeu, je ne peux pas l'enlever, c'est comme ça, même si je jouais défenseur central, je montrais quand même.
Dans les premières années, par exemple, à Laval, il y a eu pas mal de buts. Hein. Ne plus avoir autant l'occasion de marquer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu frustrant ou pas pour un joueur qui était formé justement comme attaquant?
Pas du tout. J'étais pas forcément un très gros buteur. J'ai fait une très bonne saison à Laval où j'avais mis 9 buts, voilà. Mais bon, c'était un peu, on va dire, avec de la réussite. Mais sinon, voilà, j'ai pas forcément été obsédé par le but. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça ne me dérange pas d'être placé comme latéral.
Et retrouver l'ancien entraîneur de Laval, donc à Metz vendredi, c'est important pour toi? C'est quelqu'un qui a compté, Philippe Hinschberger?
Oui, forcément, c'est lui qui m'a fait débuter en Ligue 2. Oui. Et c'est lui qui m'a fait débuter en Ligue 2, donc j'ai forcément des bons souvenirs. On a passé 4 années ensemble, donc il y a forcément des bons souvenirs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaëtan Bello.
De rien.
Bonne fin de saison. Moi, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin de l'émission. Ce soir, ici, c'est Brest, toujours en direct de l'Arena Café, depuis le port du Château. Dans quelques instants, on se retrouve avec notre invité, le prochain.
Ici, c'est Brest. Benjamin Bourgine.
Loïc Druon, bonsoir Loïc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir pour parler de Ligue 1 cette fois. Et d'un match un petit peu fou, pas qu'un petit peu. Hein.
Oui, un super match, vraiment, on a eu un très très beau spectacle.
7 buts en tout, 4-3, c'est le score final avec la victoire de Lorient, un vrai derby donc, accroché spectaculaire et rempli de buts et de renversements de situation aussi. Ça doit faire plaisir d'assister d'abord à ce genre de match, Loïc, c'est quelque chose qui réveille les sensations de footballeur.
Non, c'est clair que pour un spectateur, c'est forcément du grand spectacle, hein, avec du box-to-box cher aux Anglais, c'est-à-dire sans temps mort, de surface à surface, beaucoup d'espace, beaucoup d'action, hein, 40 tirs dans le match, c'est énorme. Après, je pense que les entraîneurs ont dû être un petit peu plus perplexes sur les petites erreurs défensives commises des deux côtés.
Est-ce que la notion un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, elle peut s'appliquer encore plus à un match comme celui-là, hein. Toi, l'ancien Merlu, c'est vrai que tu as dû te piquer au jus.
Oui, certainement. certainement la notion de derby a joué un petit peu dans l'aspect un petit peu fou de la rencontre avec beaucoup d'espace des deux côtés, mais je crois qu'il y avait surtout une urgence de points pour les deux formations, un petit peu plus peut-être pour Lorient qui était sur une série un petit peu plus négative, même si Guingamp restait sur un accro à domicile, mais un mauvais résultat à domicile aurait été très très embêtant pour les Merlus.
Et est-ce que la part de responsabilité du synthétique, elle compte dans ce genre de pluie de buts? Alors, pardon pour le jeu de mots, mais ça a été par exemple un bulletin, un petit billet dans le Télégramme, justifiant justement la fragilité des défenses parce qu'il y avait beaucoup de pluie, parce qu'il y avait aussi le synthétique, et que dans ces cas-là, bah, les appuis des défenseurs sont plus difficiles.
Oui, on a bien senti que pour les défenseurs, c'était un petit peu compliqué au niveau des appuis, surtout quand vous avez des joueurs en face en jambes et qui percutent, qui mettent de la vitesse, c'est compliqué pour les défenseurs. Après, du côté de Guingamp, par exemple, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de changements derrière. Côté l'Orienté, il y a eu aussi quelques arrivées, quelques changements, donc ça explique aussi les petits errements qu'on a pu constater. Mais je crois que c'est surtout le premier but au bout de 2 minutes qui a débloqué la rencontre et qui a fait qu'on est parti sur des bases élevées, sur un rythme un petit peu fou.
Est-ce qu'on peut parler des chances de se maintenir pour Guingamp, Loïc? Quelles sont-elles pour toi aujourd'hui?
Je suis pas trop inquiet pour Guingamp. Moi, je pense qu'ils ont des matchs importants à venir, notamment à domicile. Je crois que c'est Toulouse le prochain qui sera quand même capital.
Ah oui, ça c'est vraiment la finale du fin de tableau. Hein.
Ouais, là c'est surtout aussi l'occasion d'écarter un concurrent direct, parce que si Toulouse vient perdre à Guingamp, ce sera très très compliqué pour eux de revoir les joueurs des Côtes d'Armor, donc ce serait éliminer une deuxième équipe après 3 qui est déjà condamnée, on peut le dire. Donc ce sera domicile. Maintenant sur le contenu, moi de ce que j'ai vu de Guingamp, je suis pas très inquiet, hein. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'absents notamment derrière, donc ce qui peut expliquer les petites approximations, les automatismes qui n'étaient pas présents. Par contre offensivement, ils ont quand même des joueurs de qualité, le troisième but est magnifique, hein. Ça part quand même d'une action pour Lorient et une remontée balle de Saibur qui a été quand même assez énorme aussi sur ce match-là. Donc il y a un potentiel offensif intéressant, deux équipes qui créent du jeu, donc moi je suis pas très inquiet pour les équipes bretonnes.
L'équipe de Toulouse pour l'instant c'est 6 points, même 7 points de retard sur le premier non relégable. Tu penses qu'on peut les mettre dans la charrette aussi avec 3 ou pas encore?
Écoute, jusqu'à maintenant jamais une équipe avec autant de retard à ce moment-là du championnat ne s'est sauvée. Donc aujourd'hui le challenge pour Toulouse c'est de faire mentir les statistiques et d'être les premiers à remonter autant de points à ce moment-là du championnat. Donc sur les statistiques, ouais. Toulouse est condamné. Maintenant je pense que s'ils viennent perdre à Guingamp, ça deviendra très 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 compliqué pour eux.
Et le challenge pour Guingamp, c'est de ne pas louper justement cette victime idéale, entre guillemets, à domicile.
Oui, il y aura des matchs charnières contre les équipes, les concurrents directs au maintien. Donc c'est dans ces rencontres-là qu'il faut prendre des points. C'est vrai qu'on était presque désolés pour les Guingampais ce week-end qu'ils ne ramènent rien. Parce que, sincèrement, sur ce match-là, aucune des deux équipes ne mérite de perdre. Jocelyn l'a souligné aussi, à un moment, ça aurait pu basculer pour eux. C'était vraiment indécis. Et, bon, Lorient l'emporte sur le fil, je pense que ça fera du bien aux Merlus. Mais Guingamp aurait mérité un petit quelque chose aussi sur cette rencontre.
Lorient, pour se motiver pour la fin de saison, on sait que c'est peut-être un peu dur de rêver de place européenne, hein, pour Lorient, mais se rapprocher doucement de la 7e place, qui est la meilleure de l'histoire du club, est-ce que ça peut être un objectif, par exemple, pour les joueurs qui sont dans l'effectif des Merlus cette année?
Ah bien sûr, puisque de toute façon, le système Lorienté de rémunération est bien connu, hein, c'est indexé sur le classement et les primes qui sont reversées en fonction du classement final. Donc bien évidemment, l'objectif est de gratter le maximum de places au classement pour remonter le plus haut possible d'ici la fin de saison.
Ça marche pas forcément tout seul non plus, cette histoire d'indexation, Loïc. On l'a vu dans le passé, c'est pas forcément ça qui détermine non plus directement l'envie des joueurs.
C'est pas ce qui va motiver le plus les joueurs, bien évidemment, hein, quand on est sur le terrain, on n'y pense pas. Mais je crois que de toute façon, pour les joueurs, c'est faire les meilleures prestations possibles, remporter les matchs et amener le club le plus haut possible. Donc faire mieux que ce qui a déjà été réalisé peut être un objectif en soi, bien évidemment.
Eh bien, merci beaucoup Loïc, merci beaucoup Loïc Druon pour ce retour sur le derby dingue du week-end. Lorient-Guingamp, on le rappelle, 7 buts, 4 pour Lorient et 3 pour Guingamp. Et c'est vrai, t'as raison, il faudrait presque un bonus offensif comme en rugby dans ces cas-là pour que équipe reparte avec au moins un petit quelque chose et le mérite effectivement après de telles dépenses d'énergie et de spectacle. Et ça, c'est les spectateurs évidemment qui le savent bien et qui sont repartis du moustoir au moins avec pas mal de beaux souvenirs dans la tête samedi soir. Merci Loïc, à bientôt sur France Bleu Brésil.
À Brest, de la Pinfeld au Stangalard, ma radio, c'est France Bleu Brésil.
Cette semaine, dans La Voix des Bretons, je vous emmène dans le grand bassin de la piscine de l'Esnevin. Maxime est votre maître nageur toute la semaine.
On va travailler ce qu'on appelle le roulis. on va rouler comme en autisme, hein, comme avec le bâton, on va rouler d'un côté et à gauche et droite.
Avec Maxime Daubigny, ancien compétiteur et aujourd'hui maître nageur à l'Esnevin, nous allons apprendre à mieux nager et plonger, tous en maillot de bain, dans la Voix des Bretons, à 6h40 et 9h45 sur France Bleu Brésisel.
France Bleu. Mes jambes douloureuses ? Depuis ma cure thermale à Barbotan, j'ai repris le tango.
À Barbotan-les-Thermes, en Gascogne, nous avons 18 jours pour soulager vos douleurs, réduire vos médicaments et soigner durablement votre circulation. 9 mois après leur cure, 97% des curistes interrogés ont retrouvé des jambes plus légères. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32. 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr.
Est-ce que tu connais la reine des applis pour smartphone ?
Oui, c'est Mamatmut, l'appli de l'assurance qui ne me quitte pas.
Tu peux presque tout régler avec l'appli Mamatmut de notre mutuelle d'assurance.
La Matmut, elle nous accompagne.
Mamatmut, c'est la reine des applis.
Si vous recevez la télévision chez vous par une antenne râteau, ce message est pour vous.
Allez, vas-y, c'est à toi.
Ok, merci, j'y vais. C'est le moment ou jamais de vous équiper d'un adaptateur TNT HD si vous ne voulez pas perdre la télé.
Le 5 avril, la télé passe à la haute définition. Si vous voyez le logo Arte HD sur les chaînes 7 ou 57, c'est bon, votre télé est prête. Si le logo Arte HD n'apparaît ni sur la chaîne 7, ni sur la chaîne 57, équipez-vous vite d'un adaptateur TNT HD.
Plus d'infos sur recevoirlatnt.fr ou en appelant le 0 970 818 818. Appel non surtaxé.
Ici, c'est Brest.
Le jeu ce soir sur France Bleu Brésisel, pas de gagnant pour l'instant au standard. Et donc je vous rappelle qu'il y a deux places à gagner pour le prochain rendez-vous de Brest, le Stade Brestois à domicile. Ce sera contre Créteil et ce sera en Ligue 2 le vendredi 4 mars. Voilà, Brest-Créteil à 20h. Et deux places à gagner au standard de France Bleu Brésisel et vous pouvez les gagner dès à présent si vous composez le numéro suivant 02 98 53 65 deux fois.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Ici c'est Brest jusqu'à 19h, toujours en direct de l'Arena Café. On parle à présent de basket avec David Le Goff. Bonsoir David.
Bonsoir Benjamin.
Merci beaucoup d'être avec nous, manager général chargé du recrutement et de plein d'autres choses au sein du Landerneau Bretagne Basket, dont on va rappeler brièvement l'origine, parce qu'en fait les auditeurs du Finistère le connaissent bien, ce club c'est Pleyber Christ, ensuite Léon Trégor, aujourd'hui basé donc à Landerneau, et il y a tout un projet derrière de structuration et aussi de salle de basket. Ça fait plein mal de choses sur la table. D'abord, un tout petit point sur le sportif. Vous êtes aujourd'hui 4e au classement de la Ligue 2 féminine.
Exactement, on est seul 4e suite à la victoire de Tarbes ce week-end contre un prétendant derrière nous, Strasbourg. Et l'objectif, c'est de le rester jusqu'à la fin de la saison. On est bien sur cette 4e place et on aimerait se maintenir sur cette position.
4e place qui propulse vers une fin de saison alléchante.
Voilà, tout à fait. Qui, pour la première fois, pourrait nous permettre d'accéder aux play-offs avec une formule de la première place à la 6e place. Donc les deux premiers accèdent directement au Final Four. Et le 4e rencontre le 6e et le 3e rencontre le 6e et le 4e rencontre le 5e. Pour ce qu'elle, les deux vainqueurs de ces deux matchs accéderont également au Final Four, donc pour déterminer à l'issue le champion de France et l'équipe qui montera en Ligue féminine.
Voilà, ensuite combien d'équipes montent ? Une ou deux ?
Une seule. À l'issue de ce Final Four, le vainqueur du Final Four.
Et il y a aussi le premier du classement régulier ou pas du tout ?
Pas du tout.
Non, parce que ça existait pendant un temps, mais c'est plus ça aujourd'hui. Le club de Landerneau Bretagne Basket, c'est un club qui s'est métamorphosé sur quelques saisons dernières. Bien sûr, c'était Pleyber Christ au départ qui, avec peu de moyens, avait quand même réussi l'exploit d'arriver en deuxième division nationale de basket. Vous nous rappelez un petit peu l'historique qui fait qu'aujourd'hui, ça s'appelle Landerneau Bretagne Basket.
L'historique, saison 2010-2011, les dirigeants de Pleyber Christ ont souhaité nous rencontrer afin d'échanger et sur la possibilité d'être accompagnés dans leur souhait de continuer à se développer, à exister en Ligue 2 féminine pour des problématiques diverses et variées, mais on va dire rapidement de salles, d'économie, de bénévolat et puis effectivement parce qu'un passé déjà très riche de montées successives et puis un besoin effectivement d'être de 209. On s'est dit ok, on a dit banco une fois qu'on a eu une information aussi capitale, c'est-à-dire que c'était l'arrivée d'une d'une salle communautaire donc sur le pays de Landerneau-Daoulas qui va d'ici quelques mois être opérationnelle et dès la saison prochaine. Et depuis maintenant 4 ans, on essaye donc de structurer chaque année un peu plus ce qui est devenu le Léon Trégor Basket 29 suite à cette union. Et aujourd'hui, maintenant, pour la première année, le Landerneau-Bretagne Basket, donc qui vient de s'installer presque définitivement sur Landerneau, sachant qu'on joue également pour l'équipe réserve en National 3 à Pleyber-Christ et également sur les U18 Nations en alternance entre Landerneau et Pleyber-Christ, parce qu'il n'est évidemment pas question de dénaturer le projet. Le projet, c'est un projet sur le Finistère Nord basé à Landerneau, mais qui est un projet en tout cas de territoire.
Il faut allier en fait tous les ingrédients qui font qu'aujourd'hui le sport professionnel fonctionne, c'est-à-dire des gens disponibles pour ça, du talent sportif évidemment, et Pleyber-Christ à l'origine n'en manquait pas, de la formation, et puis voilà, un lieu, une ville et une salle, et ça vous avez justement, vous le disiez à l'instant, une salle qui va sortir de terre, qui est quasiment sortie de terre.
Oui, c'est la convergence de plusieurs facteurs qui effectivement aujourd'hui nous permettre de voir plus loin et notamment grâce à cette nouvel outil qu'on va découvrir, hein, mais dont on a on a beaucoup d'attentes sur cet outil, mais également du talent. Il y en a toujours par une capacité à recruter avec des faibles moyens, mais avec des moyens pour autant. On va dire qu'on est sur le podium au niveau plutôt en bas du championnat au niveau du budget, et pour autant aujourd'hui on est quasiment sur le podium sportivement. C'est une première également, mais c'est un enchaînement d'années d'expérience qui font que dans l'historique un sou est un sou. On ne dépense pas un euro qu'on n'a pas. En tout cas, c'est une politique qui est depuis notre rapprochement avec Pleyber-Christ qui est appliquée. On fait avec les moyens du bord, donc ça nécessite effectivement de réfléchir à la formation et depuis le démarrage du projet, mais depuis également l'époque de Pleyber-Christ et également du club de Landerneau, donc qui s'est uni avec celui de Pleyber-Christ. La formation est au cœur du projet et effectivement on sait très bien qu'on ne peut passer des étapes supérieures qu'en travaillant sur ce domaine-là également. Bien sûr, sur le facteur économique, arriver sur Landerneau, c'est une capacité nouvelle également, et Landerneau fait partie du pays de Brest et des forces économiques bien plus importantes et nécessaires.
Ça compte énormément
et évidemment chaque jour qui passe on essaye de développer un peu plus nos capacités financières pour avancer, et puis il reste une marche à franchir pour atteindre le plus haut niveau, et c'est bien sûr l'objectif.
Est-ce qu'à Landerneau Bretagne Basket vous avez plus de bénévoles, plus de salariés aussi dans la structure que dans les deux précédentes? Est-ce que c'est aussi une montée en puissance?
La structure s'est étoffée avec le temps. On a démarré, on était un bureau de 8 personnes, on va dire 4 personnes de Pleyber-Christ, 4 personnes de Landerneau, et on a travaillé avec cette équipe pendant 3-4 ans, au niveau de l'organisation, je dirais, un peu du club. Autour de nous, pour autant, chaque samedi et dans la semaine, on a un certain nombre de bénévoles qui, aujourd'hui, se montaient à une cinquantaine de bénévoles fidèles et qui travaillent vraiment, vraiment beaucoup. Et on le fait aussi dans une super ambiance. C'est ce qui, je crois, nous permet de voir encore venir, parce qu'on va avoir une structure finalement beaucoup plus grande avec beaucoup plus de besoins, parce qu'on va pouvoir accueillir également beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, nous sommes la première influence en termes de spectateurs en Ligue 2 féminine. C'est pas rien. Dans une salle de 600-700 places, on accueille, et comme pendant les vacances, le dernier match, 1100 à voire 1200 personnes. C'est vraiment génial, et 1200 personnes qui viennent encourager une équipe, hein, non seulement spectateurs, mais aussi de plus en plus supporters. Les gens sont en train de s'accaparer le projet de plus en plus sur le territoire.
Vous avez clairement en ligne de mire un jour la première division. Est-ce que ça fait partie de la structuration de l'idée que vous faites du club?
Alors,
de ce projet?
En effet, comme je l'ai dit précédemment, il reste une marche à franchir. Ça, c'est dans un coin de notre tête, mais comment dire, dans l'immédiat, on a besoin encore de se renforcer, de se structurer. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être allons-nous accéder au play-off, peut-être allons-nous aller au Final Four, peut-être allons-nous avoir l'occasion de gagner ce Final Four. Pour autant, la question de se dire est-ce trop tôt ou pas, on se la posera quand au moment venu. Mais en tout cas, on va essayer dans la mesure du possible d'avancer très vite pour accéder à ce projet-là, et puis essayer de faire vivre le territoire au niveau de ce marqueur sportif qui plaît beaucoup visiblement sur le pays de Landerneau-Daoulas et sur le Nord Finistère.
Est-ce qu'il y a une concurrence entre les filles du hand, les filles du basket, quand on est sur un territoire qui est peu ou prou le même, qu'on doit chercher des sponsors, qu'on doit structurer un peu tout ça? Est-ce qu'il y a des fois des... On dit, j'ai déjà des affiches pour le hand.
Je pense que, plutôt que parler de concurrence, on peut parler de complémentarité, et on peut même aller descendre un peu plus dans le sud, parler des filles du Quimper volé. Et je crois que nous, l'idée qu'on s'en fait, et moi quand j'en discute également avec de nombreux partenaires que l'on rencontre, j'ai aucune difficulté à évoquer l'idée de venir se bagarrer contre les filles du sport collectif finistérien à la pointe Bretagne là, et venir batailler contre nos projets qui sont peut-être loin géographiquement, mais qui sont en tout cas qui bataillent dans l'esprit de défendre une idée commune. Je pense c'est celle que de défendre les couleurs de la Bretagne, de notre Finistère bien sûr, et ça je crois que ce sont des super valeurs. Et non, je pense qu'on est plutôt complémentaires. Effectivement, des partenaires sont engagés à droite et à gauche, ne peuvent pas être partout non plus, on le sait bien, la situation économique est ce qu'elle est, mais on reçoit beaucoup de bonnes ondes, et on est en tout cas écouté et globalement soutenu, mais pour autant on cherche bien entendu à se développer. Comme je le rappelle, on est un petit budget, voire un tout petit budget dans notre championnat.
Dans quelques minutes, on parlera aussi de sponsoring en voile, cette fois avec Franck Camas qui nous parlera de son nouveau partenaire sportif pour la Coupe de l'Amérique. C'est un autre domaine. Mais je note une chose dans ce que vous dites, c'est vrai, le Quimper volait, les filles du hand, Brest-Bretagne. Et puis vous, il y a quelque chose qui naît dans le sport féminin finistérien pour... Alors, qui naît, bien sûr, c'est sans doute faire injure à ceux qui défendent ces projets-là depuis des années de dire que ça naît. Mais quelque chose se structure et pourrait être entre guillemets vendu comme ça à la pointe bretonne.
Oui, complètement. Je pense que ce sont des sports déjà de salle, donc qui permettent quand même d'accueillir des spectateurs dans des conditions assez sympas, et donc qui permettent aussi à beaucoup de familles, parce que c'est un sport familial, hein, c'est un sport collectif où il se passe toujours quelque chose, hein. Lors d'un match de basket, on est en action permanente. Donc c'est un sport véritablement familial, comme on le dit. On accueille donc une population large et véritablement. Peut-être qu'à l'instar du football qui intéresse peut-être plus les hommes que les femmes, on a cette capacité, cette chance d'intéresser, je pense, un plus large public.
D'accord, autant que les hommes que les femmes chez vous, quoi.
Oui, je le pense, clairement.
Mmh. Et surtout les familles.
Surtout les familles, voilà, c'est tout à fait ce que peut drainer le sport féminin, comme le sport masculin de salle également, mais je pense qu'il y a aussi ce confort d'être en salle qui, bien entendu, draine un large public.
L'inauguration de la salle de Landerneau, on aura le plaisir de la faire quand?
Eh bien, je vais pas me permettre de parler à la place des responsables politiques et de Patrick Leclerc, le maire, le président de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, mais qui nous soutient avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'intérêt. Il semblerait que pour le début de la saison, c'est certain, on démarrera le 24 septembre, alors peut-être à Landerneau ou peut-être à l'extérieur, mais en tout cas la salle sera prête, et peut-être même avant, afin qu'on puisse peut-être effectivement appréhender de manière optimale les lieux. Donc on serait évidemment ravis.
Ce serait idéal de commencer la saison là-bas.
Ça serait idéal d'être retransmis en direct sur Radio France Bleu Brésil. Ça serait idéal de créer le buzz. En tout cas, on attend cela avec impatience. Et aujourd'hui, on est dans une grosse démarche de recherche de partenaires pour, comme je le répète, accentuer et augmenter notre budget pour espérer effectivement proposer une équipe et un effectif plus renforcé. On a déjà un noyau très très intéressant qu'on va espérer conserver, et parce qu'on est un club dans lequel on vit bien et les gens se sentent bien, je crois, les filles également. Et donc on va apporter les modifications nécessaires pour jouer, si nous ne montons pas cette année, mais c'est pas l'ambition, faut être honnête, faire encore mieux l'année prochaine.
Et bien merci beaucoup David Le Goff d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu Brésil pour évoquer Landerneau Bretagne Basket, votre prochain match ce week-end.
Alors le week-end nous allons à Charnay, on joue contre les avant-dernières, mais ça va pas être simple du tout, parce que malheureusement on a une joueuse qui s'est gravement blessée lors du dernier match à Landerneau, Alexandra Tchèque, et on va donc ensuite recevoir Aulnoy, deuxième actuellement au classement, le 5 mars, puis nous irons à Chartres et nous recevrons Tarbes, troisième actuellement au classement, à domicile le 26 mars. Ça sera le dernier match à domicile.
C'est la fin de la saison régulière.
Ensuite, nous allons à Reims le 2 avril et peut-être les playoffs derrière si nous sommes quatrième à domicile.
Très bien. Merci beaucoup, David Le Goff, et à très bientôt sur France Bleu Brésil.
Ici, c'est Brest.
On termine comme promis avec la voile, et Franck Camas est avec nous à présent, le skipper français, et qui a monté autour de lui le projet, vous le savez, de la Coupe de l'Amérique, avec lequel la France, selon lui, a les moyens de gagner ce trophée si convoité parmi tous les marins, la Cup. Aujourd'hui, l'équipe du Team France annonçait à Paris un nouveau partenaire. Évidemment, ça compte dans ce genre de projet, les sous, et pas qu'un peu. Bonsoir Franck Camas.
Bonsoir.
Alors on va parler bien sûr de ce nouveau partenaire que vous annoncez aujourd'hui, mais d'abord on a très envie de vous demander des nouvelles de la santé après le grave accident et cette fracture ouverte à la jambe au pied. C'était en fin d'année dernière à l'entraînement. Où en est aujourd'hui, Franck, votre convalescence ?
Bah, si on va au mieux, c'est ce que j'espérais le lendemain de mon opération le 30 novembre, c'est d'être sur pied, commencer à marcher aujourd'hui et naviguer pourquoi pas la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je tiens le timing et j'espère faire mes premiers bords la semaine prochaine à Oman.
Alors on sait que vous avez rencontré des difficultés dans votre carrière, on va dire dans l'échelle de l'adversité. Vous placez cet accident à quel endroit ? Est-ce que c'est la plus grosse frayeur de votre vie de marin ?
Oui, on peut dire que c'est la plus grosse frayeur parce que ça a atteint son corps et sa capacité donc à exercer son métier, au moins sa passion. Donc c'est vrai que l'image de mon pied arraché, c'était pas la meilleure image que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc après, on n'a pas le choix quand ça nous arrive. Ce qu'on pense surtout, c'est à remédier le plus vite possible. C'est ce que j'essaye de faire et travailler notamment en ce moment sur la rééducation au maximum pour que cet accident soit le plus vite oublié. Et puis ça me permet de toute façon de passer du temps différemment, pas forcément sur un bateau, mais avec mon équipe, avec les designers du futur bateau Groupe Amatim France pour la coupe. Donc c'est de toute façon pas du temps perdu, même si j'ai dû forcément ajuster un peu mon planning.
Et on imagine que pour revenir au top niveau, il n'y a rien de mieux que de se jeter dans le travail. Pour ça, on vous fait confiance. D'ailleurs, l'arrêt de travail au sein de Groupe Amatim France, c'est pas forcément quelque chose qui vous est très familier. On va parler de la Cup justement à présent. Que vous apporte ce nouveau donc partenaire que vous annoncez aujourd'hui, Noroto ?
Ah ben Noroto, oui, c'est une excellente nouvelle parce que, comme on l'avait dit depuis le départ et depuis l'annonce avec Groupe Amatim, qu'on se lançait dans ce défi. On voulait aussi fédérer derrière le partenaire type Groupama, fédérer d'autres entreprises qui adhèrent à ce projet d'union nationale, de représentation de notre pays sur une plateforme qui est la Coupe d'América, une plateforme technologique, une plateforme sportive, du management aussi. Et je crois qu'on a avec Noroto un partenaire idéal qui s'allie bien avec Groupama, qui vont fonctionner de façon la meilleure possible. Et voilà, c'est tout simplement prouver ce que l'on avait annoncé il y a 8 mois maintenant. C'est pas fini aussi, c'était nécessaire pour finir notre budget. Alors il nous manque encore 10% et de la visibilité sur le bateau. Mais Noroto arrive vraiment dans un état d'esprit très très sain. De travail constructif avec nous. Et puis ils ont annoncé également qu'ils sont pas là uniquement pour 2 années, mais pour 5 années. Ça veut dire que c'est finalement notre premier partenaire pour la 36e coupe en 2020. Parce qu'on a toujours dit, on souhaite que notre projet ne s'arrête pas, comme souvent c'est le cas dans la Coupe América, le lendemain de la dernière régate de la coupe. Et on veut continuer à travailler avec la même équipe et tout ce qu'on a engrangé comme richesse intellectuelle et humaine pendant nos deux années de travail. Donc voilà, c'est déjà la première étape de la 36e Coupe América. Donc ça permet d'avoir une visibilité un peu plus longue et aussi ça nous change notre vision et notre façon de travailler, notre discours que l'on peut avoir avec les collaborateurs du groupe Amatim France.
On sait que c'était la tâche importante pour vous de trouver des partenaires, des sponsors dans cette Coupe de l'Amérique, qui n'est pas forcément un produit très facile à vendre aux sponsors en France. Et si on regarde justement les voiles et les coques des autres bateaux de la Coupe de l'Amérique, il y a toujours un co-sponsoring, plusieurs marques qui accompagnent ces projets sportifs. Donc finalement, vous êtes là encore dans les pas des autres projets qui fonctionnent, qui marchent ?
Oui, tout à fait. À l'image un peu de Team New Zealand, on voit que la Coupe América, c'est tout le temps du multi-partenariat. Il n'y a pas un seul partenaire. Tout le monde peut trouver intérêt à être visible sur la coque ou sur l'aile de nos bateaux et puis utiliser aussi les régates avec un spectacle qui est assez extraordinaire à voir, même de la coque, même si on n'est pas sur le bateau. C'est le seul spectacle en voile qui peut attirer des non-fans de voile, le grand public qui regarde ces bateaux évoluer à 25 nœuds à quelques mètres de la côte, c'est assez fabuleux. Et voilà, il faut qu'on fasse comprendre à d'autres entreprises, parce que notre travail commercial n'est pas fini, que la démarche de Noroto est la bonne démarche. Et d'ailleurs, Noroto et Groupama sont nos meilleurs VRP pour aller encore chercher des nouveaux investisseurs dans notre projet.
Et bien merci beaucoup Franck Hamas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Franck Hamas, que nous avons joint tout à l'heure, à quelques minutes avant cette émission. Il était donc avec nous depuis Paris parce qu'ils ont présenté ce nouveau partenaire, donc Noroto, aujourd'hui à Paris lors d'une conférence de presse. Et donc, vous l'avez compris, eh bien c'est bien parti pour que l'équipe de France puisse tenir son rang dans cette prochaine America's Cup. D'ailleurs, ce week-end, il y a un rendez-vous de régates. Ce sont les America's Cup World Series. C'est des régates qui préparent à la véritable America, mais ça ne l'est pas encore tout à fait. Et ce sera du côté du Sultanat d'Oman. Voilà pour les rendez-vous de voile. Et justement, dans ces prochaines régates des America's Cup World Series, il y aura un rendez-vous en France. Notez-le, ce sera à Toulon dans l'année. Également à suivre, encore quelques rendez-vous de sport à vous donner, notamment du hockey sur glace, qu'on n'oublie pas. Le hockey sur glace à Brest avec les Albatros qui sont en plein play-off. On va voir ça dans quelques secondes. Le temps de vous annoncer que Marine, auditrice de France Bleu à Santec, a gagné les deux places pour aller voir Brest contre Créteil. Ce sera donc vendredi 4 mars. Bravo à elle. On se retrouve dans quelques petites minutes.